Nous allons passer maintenant à la partie NAT, Network Address Translation, transparent 89 90. Supposons que vous êtes administrateur réseau d'une entreprise et vous avez acheté un réseau slash 24, c'est-à-dire 256 adresses. Mais soit que maintenant vous avez 1000 machines, soit à l'époque où vous l'avez acheté, il y avait 100 machines, mais actuellement l'entreprise a par exemple 1000 machines, puisque c'est il y a une expansion de l'entreprise. L'effet est le même. Vous avez plus d'ordinateurs que d'adresses IP publiques. Quelle est la solution? Eh bien, déjà, vous pouvez donner environ 250 adresses publiques à 250 machines. Et puis, que faites-vous pour le reste des ordinateurs? Eh bien, vous pouvez leur donner des adresses privées. Cela veut dire qu'elles peuvent travailler dans votre réseau, mais vu qu'elles ont des adresses privées, par défaut, elles ne peuvent pas se connecter à Internet, échanger des paquets avec des machines sur Internet. Eh bien, la NAT est une technique qui permet à des machines qui ont des adresses privées, par exemple, de pouvoir échanger des paquets sur Internet. Et c'est une technique très utilisée. Elle est utilisée, par exemple, par les box Internet, toujours, elle est utilisée sur notre pôle universitaire. En fait, cela fonctionne de la manière suivante. Tous les paquets qui sont envoyés, qui sont échangés entre ces machines d'adresse privée et Internet, passent forcément par une machine qui se trouve entre elles. C'est une machine donc de votre réseau gérée par l'administrateur. Et cette machine va remplacer les adresses privées par sa propre adresse IP publique. Alors, voyons plus précisément comment cela fonctionne. Il y a trois formes de NAT. NAT statique, dynamique et NAT de port. Le NAT statique, c'est une formule 1 à 1, une adresse à une adresse. Par exemple, si vous avez un serveur web dans un réseau privé, pour qu'il soit disponible, accessible depuis l'extérieur, vous devez lui donner une adresse publique. Autrement dit, cette machine qui fait la NAT va remplacer toujours son adresse IP par une adresse IP spécifique à ce serveur web. Donc, il y a une adresse IP publique qui est utilisée uniquement par ce serveur web. Cela veut dire que la NAT utilisée pour ce serveur web est une NAT statique. Une autre forme, c'est la NAT dynamique. Supposons que vous avez quatre adresses IP à disposition et vous avez par exemple, 100 machines d'adresse privée. Vous pouvez donner à ces 100 machines d'adresse IP par aléatoirement une des quatre adresses IP. C'est-à-dire que vous avez n adresses privées et m adresses publiques ou n supérieur à n. Et enfin, vous avez NAT de port qui est comme la NAT dynamique sauf que m est égal à 1. On l'appelle aussi NAPT, Network Address Port Translation ou PAT, Port Address Translation, où vous avez beaucoup d'adresses privées et donc toutes les machines avec des adresses privées utilisent une seule adresse IP publique. C'est le cas sur notre pôle universitaire et aussi sur vos box où sur notre pôle universitaire, toutes les machines, quand elles sortent quand elles envoient des paquets vers l'extérieur, ces paquets tous auront comme adresse IP source, pas l'adresse IP privée, mais l'adresse IP publique de la machine NAT de notre pôle universitaire. J'y reviendrai. NAT de port, c'est la forme de NAT la plus utilisée. Alors, comment cela fonctionne? Transparent 92, on voit à droite un réseau classique où il y a un réseau d'adresses privées parmi lesquelles il y a une machine A. Cette machine, pour aller sur Internet, ces paquets passent forcément par la machine N, puisqu'elle s'interpose entre le réseau où A se trouve et Internet. À noter aussi que AN peuvent se connecter d'autres machines, comme le réseau à droite. Eh bien, supposons maintenant, pour comprendre comment la NAT de port fonctionne, supposons que A envoie un paquet à B. Quand A crée un paquet, eh bien, dans l'entête IP, l'adresse IP source sera A et l'adresse IP destination sera B. À noter que A est une adresse privée. Eh bien, ce paquet passe forcément par N. N, chaque fois qu'il intercepte et qu'il route forward des paquets, il remplace les adresses privées, par exemple l'adresse de A, en sa propre adresse publique. Et quand ce paquet, il le reforward, vous voyez bien que sur Internet, on ne verra plus l'adresse de A, mais on verra l'adresse publique de N, c'est-à-dire la machine N, l'interface vers le bas. Quand B reçoit le paquet, B voit qu'il discute avec N. Il répond donc à N, et quand N reçoit ce paquet, via un certain mécanisme qu'on détaille tout de suite, va remplacer l'adresse IP destination de ce paquet réponse de B vers A, ou vers N. Donc va remplacer l'adresse IP destination de N en A. Et puis il le reforward dans le réseau en haut d'adresse privée. Et ainsi la réponse arrive à A. Vous voyez donc que, en dépit du fait que A a une adresse privée, sur Internet circulent uniquement des paquets avec des adresses IP publiques, B et N par exemple. Vous voyez aussi que B ne sait plus qu'il discute avec A, mais il voit qu'il discute avec N. Alors, pour que la réponse de B vers A puisse arriver à A, une fois qu'elle arrive à N, N doit créer, lors du premier paquet de A vers B, une correspondance entre A et B. Eh bien, cela se fait de la manière suivante. Quand le premier paquet qui va de A vers B arrive à N, il crée un tableau de correspondance où il crée un port, par exemple un port source 50 000, et il va affecter ce port 50 000 à A. Par la suite, quand B répond à A ou à N, il va bien sûr mettre comme port de destination 50 000. N, quand il reçoit ce paquet 50 000, il regarde dans le tableau et il voit que 50 000, en réalité, c'est pour A. Les choses sont un peu plus compliquées puisque uniquement le port ne suffit pas. Mais il y a aussi le port il y a aussi le port de la source qui est impliqué. Donc il y a le port de A et le port de N qui sont utilisés. Attention, la machine N doit forcément, obligatoirement, se trouver entre le réseau privé et Internet. Au transparent suivant 93, vous avez un exemple de tableau où on voit l'adresse source, l'adresse, le port source et le port de la machine NAT et éventuellement le protocole, quoique habituellement il y a uniquement TCP qui est utilisé, puisqu'en UDP il n'y a pas de réponse, il n'y a pas un vrai échange normalement. Donc ici, on voit que lorsqu'un paquet vient de B, donc de Internet, arrive sur la machine NAT, et que le port destination de ce paquet, c'est 45 000, 47 000 099, eh bien, cette machine sait que ce paquet doit être envoyé à la machine 10.1.2.3 et au port local 9.8.5.6. Donc, il va remplacer l'adresse IP destination de ce paquet en 10.1.2.3. Et le port de destination, attention, de destination, il va le remplacer en 9.8.5.6 et va renvoyer ce paquet dans le réseau interne privé. Ces lignes seront effacées quand elles ne sont plus utilisées, puisque sinon le tableau augmente indéfiniment. Il y a un peu plus à expliquer sur ce tableau. Je vous laisse répondre vous-même à la question. Quand une ligne dans ce tableau est créée? Et également, pourquoi le port source est mis aussi, puisqu'on aurait pu utiliser directement l'adresse source? Les caractéristiques d'un NAT sont les suivantes. Il est impossible d'initier une connexion depuis l'extérieur, puisqu'il n'y a pas encore de ligne dans la machine N. Donc les machines d'adresse privée ne peuvent pas être contactables depuis l'extérieur. Cela signifie que cet ordinateur a une certaine sécurité elle est sécurisée de ce point de vue. Par contre, cela crée de gros inconvénients à certains protocoles de haut niveau comme FTP et SIP, qui mettent les adresses IP de source et destination dans leur en-tête, c'est-à-dire dans l'en-tête application, dans la partie applicative, dans les données. Et cela, le problème, vous comprenez bien, c'est que lorsque la machine NAT reçoit un tel paquet, elle modifie bien l'en-tête IP et l'en-tête TCP de ce paquet. Mais elle doit modifier aussi les données. Mais pour cela, les machines NAT doivent comprendre aussi les protocoles FTP, SIP et autres. Cela pose donc un gros souci à ces protocoles. Les avantages de NAT sont qu'il peut être utilisé pour faire du load balancing quand il y a plusieurs serveurs qui se partagent la charge et un proxy HTTP transparent. Par exemple, vous avez bien compris que quand tout le monde fait des recherches sur Google, il n'y a pas un seul serveur qui répond à toutes les requêtes puisqu'il serait saturé tout de suite. Eh bien, une des techniques, mais qui n'est pas utilisée dans cet exemple Google, une des techniques pour utiliser plusieurs serveurs à la place d'un seul, donc faire un proxy HTTP, est d'utiliser la NAT. Qui peut faire la NAT, transparent suivant 95? Beaucoup de machines peuvent le faire. Ça peut être un PC, ça peut être un routeur ou d'autres machines comme le PIX Firewall que vous allez voir en deuxième année.